France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Je le disais, oui, pour cette première émission de l'année, nous avons fait le choix de nous porter vers un sentiment positif, le sentiment amoureux, et plus précisément vers l'amour naissant. Selon Francesco Alberoni, l'amour naissant est un événement qui s'impose à nous. Il restructure notre univers et ses lois, abolit notre passé, reconditionne notre présent. C'est une révolution intime, révolution au sens second du terme. L'être amoureux ne fait pas un tour sur lui-même, il devient autre, il se métamorphose, ou plutôt s'anamorphose. Fin de citation. Mais le sentiment amoureux, lui, n'a pas toujours existé. Il apparaît au XVIIIe siècle sous la plume de Marivaux, succédante à la Passion. Les Lumières lui préfèrent le charme du coup de foudre et de l'aggiornamento. Alors quels sont ses fondements? Quels sont les fondements de ce sentiment que l'on se figure naturel et éternel? En quoi fait-il de l'amour une surprise? Pour tenter de comprendre tout cela, une invitée ce soir, Élodie Ripoll. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence au département d'humanité numérique de l'université de Trèves et vous avez co-dirigé avec Catherine Galouette cet ouvrage intitulé « Tomber en amour, enquête sur la naissance du sentiment au XVIIIe siècle », un ouvrage qui paraîtra demain aux éditions Classique Garnier. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir.
Vous êtes jolie.
Vous êtes bien obligeant.
Oh, quoi, je dis la vérité.
Vous êtes bien jolie aussi, vous.
Tant mieux. Où demeurez-vous? Je vous irai voir.
Je demeure tout près. Mais il ne faut pas venir. Il vaut mieux nous voir toujours ici. Parce qu'il y a un berger qui m'aime. Il serait jaloux et nous suivrait.
Ce berger-là vous aime?
Oui.
Mais voyez donc cet impertinent. Je ne veux pas, moi. Est-ce que vous l'aimez, vous?
Non. On n'est jamais pu venir à vous.
C'est bien fait. Il ne faut aimer personne d'autre que nous deux. Voyez si vous le pouvez.
Oh, de reste, je ne trouve rien de si aisé.
Tout de bon?
Oh, je ne mens jamais. Mais où demeurez-vous aussi?
Dans cette grande maison.
Quoi? Je la fais?
Oui.
J'ai toujours eu du malheur.
Mais qu'avez-vous, ma chère amie?
C'est que cette fée est plus belle que moi. Et j'ai peur que notre amitié ne tienne pas.
Oh, j'aimerais mieux mourir.
Vous m'aimerez donc toujours?
Tant que je serai en vie.
Ce serait bien dommage de me tromper, car je suis si simple.
Un extrait d'Arlequin, poli par l'amour, signé Marivaux, évidemment. Élodie Ripoll, qu'est-ce que Marivaux invente en matière de sentiments amoureux, d'écriture de sentiments amoureux, et surtout, qu'est-ce qu'il invente en matière de complexité de ce sentiment?
Alors, ce qui est très beau dans l'exemple que vous avez montré, c'est qu'on voit vraiment l'amour naître sous les yeux des spectateurs. Donc, avec Arlequin et le personnage féminin. Et alors, ce qui est nouveau, c'est déjà de le montrer au théâtre, puisqu'on a généralement eu avant un théâtre qui était plutôt basé sur un texte. Et avec Marivaux, le jeu va, dans la tradition du théâtre italien, plutôt reposer sur le jeu des acteurs que sur le texte. Le théâtre italien, il avait un canevas, il y avait une grande place laissée à l'improvisation. Et là, donc, on va avoir des dialogues finalement assez simples, mais beaucoup d'espace pour le jeu, pour l'interprétation. Et on peut voir ces deux jeunes gens découvrir le sentiment amoureux sous nos yeux. Alors, c'est très nouveau parce qu'auparavant, les personnages de théâtre étaient déjà amoureux. C'était le cas chez Molière. Et puis, ils étaient dans l'ordre de la... Hors Molière, donc si on était plutôt dans le théâtre chez Racine ou chez Corneille, on était plutôt dans l'ordre de la passion. Donc, ils n'étaient pas aussi... aussi positif que le sentiment. On arrive au XVIIIe siècle avec cette notion de sentiment qui est nouvelle, qui est bien plus positive et qui ne représente pas une menace pour la société ou pour l'ordre établi.
Il faut nous expliquer justement, Élodie Ripoll, cette différence fondamentale, la différence que vous faites, qui est un peu le fil rouge de l'ouvrage que vous co-dirigez, entre la passion d'un côté, qui précède le XVIIe siècle, et le sentiment amoureux. La passion, c'est presque ce qui vient d'en haut, ce qui est absolument absolu, ce qui ne laisse aucun doute à celles et ceux qu'elle traverse, alors que le sentiment amoureux naît, surgit avec beaucoup plus de complexité, de doute, de terreur, au fin fond de l'intimité.
Oui, et de troubles, surtout,
et de troubles.
Parce qu'on ne sait pas... quel mot mettre sur ce sentiment nouveau qui s'empare des personnages qui sont généralement très jeunes. Donc ils découvrent vraiment... Là, les personnages d'Arlequin, bon, c'est un personnage typique, mais en général, les héros de Marivaux ont plutôt 16-17 ans, donc ils sont très très jeunes. Mmh. Et c'est vrai que la passion, au XVIIe siècle, elle arrivait vraiment d'en haut. C'est la malédiction de Vénus pour Phèdre, donc c'est vraiment quelque chose qui est imposé et qui ne laisse aucune marge de manœuvre au personnage. Alors que chez Marivaux et chez les autres... Enfin, à partir du XVIIIe siècle, le sentiment... alors déjà, c'est un mot nouveau. On a des mots nouveaux qui apparaissent au XVIIIe siècle. On va parler de sensible, de sentimental. On a tout un ensemble de termes qui arrivent. Et la particularité, c'est qu'ils vont lier finalement l'expression du sentiment, de l'émotion au corps, au ressenti du corps. Donc, c'est là d'où vient tomber amoureux, comme tomber malade, le coup de foudre qui va s'imposer à la fin du, enfin qui va être lexicalisé à la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est donc ce lien entre le corps et les sentiments qui n'était pas là auparavant. On avait cette dualité, cette séparation de l'âme et du corps, alors que là, finalement, tout est lié, l'esprit et le corps. Et donc, finalement, c'est l'influence de l'empirisme qui cause cela.
C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui permet le surgissement de cette nouvelle notion, de cette nouvelle représentation au sein de la littérature du sentiment amoureux? Comment la société transforme-t-elle elle-même le sentiment amoureux?
Alors, ça vient finalement de la fin du XVIIe siècle avec l'héritage philosophique de Locke, donc de John Locke, qui fonde l'empirisme. Alors, effectivement, la notion vient des sciences naturelles, mais cette idée que la connaissance née de l'expérience va finalement toucher d'autres domaines de la vie et effectivement aussi la vie privée des individus. Et donc, si l'expérience personnelle mène à la connaissance, évidemment, ça revalorise le statut de l'individu, de son vécu, et lui permet de, finalement, de se nourrir de cette expérience qu'il fait. Et petit à petit, on en vient justement à s'interroger sur ce que l'on éprouve. Et les personnages du XVIIIe siècle qui tombent amoureux vont essayer justement de décrire cette sensation, ce trouble qu'ils éprouvent, cette nouveauté qu'ils ne savent pas décrire et qui les perturbe vraiment, qui les fait trembler, qui les fait rougir.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction apparente, du moins, entre le fait que le XVIIIe siècle soit souvent considéré comme le grand siècle du libertinage d'un côté, et dans le même temps, on voit surgir un intérêt particulier pour ce sentiment un peu honteux, absolument troublant, qu'est le sentiment amoureux?
Ah oui, oui. Alors, ces deux tendances cohabitent, pour ainsi dire, parce qu'on a effectivement le grand siècle du libertinage, avec cet amour qui est le plaisir, qu'on associe d'emblée au meurtre de Philippe d'Orléans, le régent, qui est dit le roué. Donc, tout cet héritage-là qui va partir de passer par Crébillon, Laclos et Sade. Mais en fait, on a à côté un amour qui est beaucoup plus positif, qui est basé sur une tendresse, sur quelque chose de très différent, en fait. Et ça arrive vraiment au XVIIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a cette revalorisation de l'amour en général. Ça n'est pas que le sentiment amoureux. Et je vous avais dit que ça restructurait, on pouvait, par l'amour, structurer les rapports sociaux et l'ordre. Et en fait, on le voit si on regarde l'encyclopédie. Donc, il y a plusieurs articles d'amour. Alors, il y a galanterie, amour des sexes, bon. Mais il y a aussi d'autres formes d'amour qui sont très positives et toujours liées à la structure de la famille et à la tendresse. Donc c'est vraiment quand même une époque qui réinvente les sentiments dans leur ensemble et le sentiment amoureux. Parce que les autres sentiments sont calqués sur le surgissement du sentiment amoureux. On a vraiment ce lien qui est très marqué.
Est-ce que lorsqu'on parle ensemble et dans votre livre du sentiment amoureux, est-ce qu'on évoque uniquement le sentiment amoureux entre deux êtres qui se rencontrent ? On parle aussi de l'amour filial, de l'amour entre un père et son fils, entre une fille et sa mère, ou c'est quelque chose de totalement différent, ce lien-là qui les unit ?
Alors ça dépend. Ça dépend du moment de la rencontre et ça dépend si ce sont des affinités électives ou si ce sont les liens du sang. Dans notre volume, alors évidemment c'est la rencontre amoureuse qui occupe le devant de la scène. L'amitié peut parfois, parce que l'amitié se construit aussi selon les mêmes schémas, mais lorsqu'on a une rencontre à un moment donné entre deux êtres qui pourraient être unis par un autre lien de parenté, donc l'exemple canonique c'est vraiment la vie de Marianne et Marianne qui rencontre Madame de Miran, là on a exactement un calque de la scène de la rencontre avec la mère, avec le fils finalement, donc Marianne, à un échange de regards avec Madame de Miran, nos yeux se rencontrèrent et ce sont deux âmes qui se rencontrent et qui vont s'aimer.
Je voudrais qu'on plonge avec vous, puisque vous en êtes spécialiste, dans l'œuvre de Marivaux, en écoutant un extrait du jeu de l'amour et du hasard.
Je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens, mais je t'en prie, changeons d'entretien, venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense.
Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi.
Aïe, je me fâcherai, tu m'impatientes. Encore une fois, laisse-la ton amour.
Quitte donc ta figure.
À la fin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir. Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait.
Qu'est-ce que cette scène, qu'est-ce que d'ailleurs cette pièce, au-delà l'amour du jeu et du hasard, vous évoque, Élodie Ripoll, dans la représentation, là aussi, du sentiment amoureux? Est-ce que cette pièce marque une rupture?
Ah oui, oui. Alors déjà, c'est la pièce où on voit où la scène de première vue, puisqu'on l'appelle comme ça, dure le plus longtemps, puisqu'elle est entre plusieurs scènes. Et puis on a deux jeunes gens qui... Alors, il faut peut-être rappeler aux auditeurs l'intrigue. On a un homme, donc Monsieur Orgon, qui veut marier sa fille, Sylvia, à un Dorante. Donc les parents ont organisé cette union et les deux jeunes gens vont se rencontrer. Donc ils sont très jeunes, ils ont 16-17 ans. Mais Sylvia a une idée. Et elle décide de se déguiser en sa soubrette pour pouvoir rencontrer Dorante et l'examiner à son aise sans prendre de risques. Le problème, c'est que Dorante a eu la même idée. Donc il s'est déguisé aussi en son valet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XVIIIe siècle, généralement, lorsque les maîtres se mariaient, les domestiques se mariaient aussi. Donc on a un parallèle qui est assez intéressant. Et du coup, ces deux jeunes gens, donc de famille bourgeoise, qui sont fixés à des conventions, qui doivent agir suivant un comportement bien normé, sont du coup plus libres parce qu'ils ont les vêtements de domestique. Donc ils peuvent être un peu plus directs et ils peuvent du coup s'affranchir de certaines normes.
Et en quoi ça cristallise, si je puis dire, le passage de l'amour-passion à l'amour-sentiment, pour reprendre vos termes?
Eh bien, on a des personnages, alors surtout le personnage féminin, parce que chez Marivaux, ce sont les personnages féminins qui sont au centre. Ils ont plus d'espace pour parler de leurs émotions, pour montrer leurs émotions. Donc là, on est au théâtre, donc il y a des personnages de confidents, il y a des apartés. Et donc on peut finalement avoir accès à une intériorité qu'on n'avait pas nécessairement.
Marivaux écrit lui-même ce nouveau roman d'amour, propose une nouvelle carte du tendre dans laquelle respect mutuel, égalité et réciprocité forment la base des rapports entre deux êtres qui s'aiment, fin de citation. C'est aussi cela qui est totalement renouvelé dans Marivaux, c'est aussi une vision du couple, de la relation, de la rencontre entre deux êtres qui sont portés sur un pied d'égalité.
Oui, et c'est très nouveau ça chez Marivaux, vraiment. Alors on le voit de toute façon, si on a cet idéal du mariage d'amour qui arrive au XVIIIe siècle, et donc ça passe forcément par la revalorisation du sentiment féminin, mais personne ne va aussi loin que Marivaux.
Est-ce que Marivaux mène ce travail d'une façon consciente, ou au fond il suit simplement les mœurs de son temps?
Non, ça doit être conscient, parce qu'il est quand même assez... il est très différent. Si on regarde par exemple deux romans qui sont à peu près de la même époque, donc La vie de Marianne et Manon Lescaut de l'abbé Prévost, on n'a absolument pas le même regard sur le personnage féminin. Puisque dans Manon Lescaut, on a la perspective de Desgrieux, le personnage masculin, mais on n'a jamais les mots de Manon, on n'a absolument aucun accès à son intériorité, et tout passe par le prisme de Desgrieux qui raconte ce qu'il veut raconter. Alors que Marianne va éclairer, puisqu'elle s'adresse à une amie, elle va éclairer chaque étape de sa conscience, chaque mouvement de son âme qui va l'occuper. Donc on a vraiment accès à une intériorité qu'on va avoir dans d'autres romans mémoires, bien sûr, mais qui est chez Marivaux aussi une constante de son œuvre. C'est vraiment...
Est-ce que l'une des idées fondamentales de Marivaux, c'est qu'il ne peut y avoir d'amour sans égalité entre les êtres qui composent la relation? Que fait-il, si je vais au bout de ma pensée, que fait-il des relations de pouvoir dans un couple qui existe fondamentalement? On le sait très bien.
Alors, c'est un peu mis de côté dans ces pièces, puisqu'il se centre surtout sur la naissance de l'amour. Donc, c'est vraiment comment accepter soi-même qu'on est amoureux et donc qu'on a besoin d'un autre être.
Mais là aussi, dans la naissance de l'amour, il y a souvent une inégalité entre deux êtres qui se rencontrent.
Ah, c'est profondément endogamique, oui. Donc là, il y a déjà cette difficulté-là qui échappe, sauf dans Le paysan parvenu, par exemple, ou partiellement dans La vie de Marianne, où on a un décalage social, mais finalement, c'est l'individu, par son mérite personnel, mérite d'intégrer le monde... des nobles, finalement. Donc, il y a toujours quelque chose qui se joue là. Mais dans ces romans de jeunesse, on avait des relations très asymétriques, beaucoup plus... qui retraçaient beaucoup plus ces relations de pouvoir, en fait. Donc, effectivement, il s'y est aussi intéressé. Donc, on lit moins ses premiers romans, mais il a ce questionnement-là. Et par cette expérience-là, il en vient à montrer que, justement, l'amour ne peut se développer sur des bases saines que lorsque il y a une forme d'égalité...
entre les êtres.
Oui.
Pourquoi Élodie Ripoll a-t-on beaucoup dit de Marivaux qu'il écrivait comme une femme, ou du moins qu'il avait une écriture féminine ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, effectivement, il a été beaucoup critiqué pour son style à l'époque, ce qui nous paraît aujourd'hui assez étonnant parce que son style est encore très vivant lorsqu'on le lit.
Mais c'est quoi un style féminin alors ?
Ah, je sais pas, je pense que c'était un moyen de le discréditer parce qu'il a eu beaucoup de difficultés, par exemple, pour entrer à l'Académie française. Alors qu'il a écrit une trentaine de pièces, qu'il était joué à la Comédie française, au théâtre italien, donc il avait quand même une grande carrière. Et ses romans ont été réédités, donc c'était pas n'importe qui. Mais il y avait une espèce de, je veux pas dire de filtre, mais de distance, parce que c'était, on le jugeait maniéré, donc du coup c'était un peu trop. Peut-être cette attention aux détails, aux troubles justement, qui paraissait trop. Oui, trop maniéré, trop artificiel. D'ailleurs, détail intéressant, si on regarde l'encyclopédie, donc qui est quand même une somme de connaissances de l'époque, il n'y a aucune mention de Marivaux. Ce qui est quand même étonnant.
Est-il vrai que l'expression tomber amoureux, tomber en amour, vient de Marivaux ? On lit, on entend beaucoup cela, mais j'ai appris que ce n'était pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Alors, en fait, tomber amoureux, on le trouve dans d'autres. Dans d'autres pièces, on trouve aussi tomber en amour, même si ça n'a pas eu la même fortune. Hein, on l'utilise aujourd'hui au Québec pour justement parler de ce surgissement amoureux. Mais en fait, au XVIIIe siècle, ça aurait pu désigner toute forme d'amour, finalement.
Dans le processus de la rencontre que la littérature au XVIIIe siècle permet de représenter, comment est-ce que la rencontre amoureuse est-elle décrite, j'allais dire, presque temporellement ? Il y a d'abord l'amour compassion ou l'amour gratitude, il y a ensuite l'amour surprise, il y a enfin l'amour contrôle. Quels sont ces trois types d'amour ? Qu'est-ce que ça raconte de différent à chaque fois ?
Alors, la temporalité, c'est vraiment un élément intéressant parce que suivant l'aspect auquel on va s'intéresser, il y a effectivement des choses très importantes à dire. Alors, généralement, on parle de cette rencontre comme un instant. C'est l'instant où les yeux se rencontrent. Après, on va avoir accès à tout cet effet sur les protagonistes.
C'est le grand moment du trouble.
Voilà, le grand moment du trouble. Après, le moment où on réfléchit à ce trouble, mais on ne sait pas forcément qu'on est amoureux. Ou que les personnages sont amoureux, puis à un moment où va venir l'échange, parce qu'il faut bien qu'il y ait une conversation entre les protagonistes, et puis le franchissement, l'abolition de toute distance. Donc ça serait un schéma très structuraliste, finalement, qu'avait proposé Jean Rousset dans les années 80 par rapport à la scène de première vue. Mais il y en a d'autres. On peut effectivement intercaler la prise de conscience, qui est vraiment beaucoup plus importante chez Marivaux, où les personnages combattent vraiment leur amour propre, et cette émotion qu'ils ne connaissent pas et qui s'empare d'eux. Après, ce que vous disiez par rapport au contrôle, ça dépend de quel sens on donne à contrôle. C'est le contrôle de soi-même, de ses émotions, de ce que l'on montre.
C'est ce que vous venez d'expliquer sur Marivaux. Je voulais vous interroger sur un autre terme, une autre expression plutôt, qui elle est rentrée dans le dictionnaire de l'Académie en 1798. Cette expression, c'est celle de coup de foudre. Alors là aussi, pourquoi vous êtes-vous intéressé au coup de foudre ?
Alors, c'est effectivement un mot qui est souvent associé à la naissance de l'amour et qui est, généralement, lorsqu'on analyse ce topos, parce que c'est un topos, on parle du coup de foudre.
Il faut rappeler ce qu'est un topos, alors, c'est un schème, une régularité que l'on retrouve dans la littérature.
Voilà, une situation que l'on va retrouver et le moment du coup de foudre est vraiment celui que l'on trouve le plus, presque. Puis il est très facile à repérer, donc c'est généralement une catégorie assez pratique. Et le fait de le nommer coup de foudre, eh bien, ça implique que c'est un instant décisif et c'est l'affaire d'un instant. Donc il y a un avant et un après et les personnages sont d'emblée au courant de ce qu'ils éprouvent. C'est des grieux dans Manon Lescaut, il est enflammé d'un coup jusqu'au transport. Donc c'est vraiment cet instant décisif. Et on s'aperçoit lorsqu'on lit les romans de cette époque-là, du 18e au sens large, que finalement c'est un peu plus compliqué que ça. Parfois, voilà, les personnages ne savent pas quel est ce trouble. Donc, creuser un petit peu, relire ces textes permet de voir que c'est beaucoup plus différencié que cela. Notamment, on va y arriver, je pense, à la perspective qui est de plus en plus genrée. Finalement, on a un contrat, un pacte de lecture du coup de foudre avec les protagonistes masculins. Et finalement, on a une représentation assez différente des protagonistes féminins.
Alors justement, je voudrais vous faire entendre un coup de foudre bien connu, bien situé. Il se passe à Notting Hill.
Oh, merde !
Oh, c'est pas vrai !
Mais, pardon, je suis vraiment navré. Excusez-moi, je vais... Attendez.
Oh, attention !
Je suis vraiment navré, J'habite juste en face, là-bas, et j'ai ce qu'il faut. Du savon, de l'eau, vous pourriez nettoyer tout ça chez moi.
Non, merci, je vais récupérer ma voiture, je préfère.
Et j'ai aussi un téléphone. Je suis sûr qu'on peut nettoyer tout ça, et dans 5 minutes, je vous remets sur le trottoir. En tout bien, tout honneur, je veux dire.
Bon, très bien. Vous habitez juste en face, mais donnez-moi la distance.
Il y a 18 mètres, c'est la maison avec la porte d'entrée bleue.
Extrait de Coup de foudre à Notting Hill, évidemment réalisé par Roger Michel. Elodie Ripoll, est-ce qu'on a là affaire à un coup de foudre typique tel que le dessinait, tel que le décrivait la littérature du XVIIIe siècle ?
Alors c'est un petit peu compliqué, il ne faut pas faire un anachronisme non plus, mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on a bien deux inconnus qui ne se sont jamais vus, qui vont se croiser, et puis on a cette circonstance de l'accident, qui est très productive au cinéma pour faire se rencontrer des inconnus. Ce qui est un petit peu différent au XVIIIe siècle, puisque généralement c'est arrangé, on a des rencontres qui sont orchestrées par les parents ou par les tuteurs. Mais effectivement, on voit dans cette scène, voilà, les personnages qui sont confrontés l'un à l'autre du premier moment. C'est peut-être un peu court pour voir le coup de foudre, mais il y a la scène juste après, il y aura un autre rapprochement, un autre échange hors de la rue, donc dans une intimité un peu plus...
Je reviens quand même sur cette scène de coup de foudre à Notting Hill. L'élément de continuité que vous mettez d'ailleurs en exergue dans l'ouvrage que vous avez co-dirigé, c'est peut-être que le personnage masculin est toujours beaucoup plus sensible à ce coup de foudre, qui a quelque chose d'un amour, d'un sentiment amoureux qui surgit beaucoup plus rapidement chez l'homme que chez la femme.
Oui, enfin après, il faut aussi le voir de façon peut-être un peu plus... Alors je veux pas critiquer les protagonistes masculins ou les auteurs qui sont derrière, mais... On peut se poser des questions. Alors, si on repense à Desgrieux, parce que c'est vraiment un personnage fondamental, lorsqu'il est enflammé d'un coup jusqu'au transport, il découvre aussi le désir. Donc, c'est assez compliqué de... est-ce que c'est vraiment de l'amour, le sentiment amoureux pur, l'âme de Manon qui le séduit, ou est-ce que c'est une attirance physique qui a né à ce moment-là et qu'il prend pour un sentiment amoureux très noble.
Est-ce que dans la littérature du XVIIIe siècle, le sentiment amoureux est parfois décrit comme une maladie, comme une contagion, comme quelque chose qui se répand d'une façon incontrôlée à travers les êtres et la société ?
Ah oui, tout à fait. Alors le sujet de la maladie d'amour, c'est évidemment plus ancien, mais effectivement, on a toute ces ensembles de métaphores qui vont s'agréger au sentiment amoureux. Alors on a une contagion des imaginations qui peut... Évidemment, si on lit des scènes de première vue, des personnages qui éprouvent du trouble, on va le reconnaître chez soi. Exactement, hein, ça ne serait pas très cathartique du coup, puisqu'on va encourager à l'éprouver soi-même. Et on a évidemment aussi toute cette idée qu'on tombe malade, qu'on va en souffrir, qu'il y aura des symptômes, et peut-être qu'on peut retomber amoureux comme on retombe malade aussi.
Ce que j'allais vous demander, c'était d'ailleurs la question prochaine, c'est est-il possible, selon la littérature du XVIIIe siècle, de retomber amoureux alors qu'on l'a été un temps, qu'on a décidé, ou malgré nous, que nous ne le sommes plus, est-il possible tout simplement de retomber amoureux ?
Alors théoriquement, oui. Après, il ne faut pas oublier l'âge des protagonistes toujours, et puis on vieillissait beaucoup plus vite au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. Donc si les personnages tombent amoureux vers 16-17 ans et qu'ils se marient, donc on peut avoir des mariages qui durent, qui sont très brefs parce qu'il y a un décès, donc ça peut arriver. On a beaucoup de personnages de jeunes veuves qui ont peut-être une vingtaine d'années, donc là c'est encore très... Elles peuvent retomber amoureuses, effectivement. Mais je dirais à partir d'un certain âge, vers une quarantaine d'années, ça devient plus rare. Donc retomber amoureux, ça n'est pas à tout âge, c'est vraiment dans un cadre particulier, sans oublier que c'est toujours perçu dans le mariage, normalement. Donc il faut...
Dans la fiction contemporaine, dans l'écriture de romans, l'écriture présente, est-ce que ce sont ces schèmes-là qui reviennent, ceux qui ont été inventés, repensés au XVIIIe siècle, ou une autre rupture a vu le jour depuis lors ?
Alors je ne suis pas spécialiste de la fiction contemporaine, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de points communs encore, puisque... On l'a vu, les inconnus qui se rencontrent et qui échangent un premier regard, c'est encore des éléments qui parlent. Et le rapport au temps aussi, qui est à cet instant, qui a un échange. Mais il faudrait des exemples concrets.
Peut-être un exemple concret, en tout cas, c'est une chanson intitulée « L'amour, l'amour, l'amour ». Elle est signée Marcel Mouloudji, c'est en 1963.
L'amour, l'amour. l'ombre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, pas l'amour dont on parle toujours.
Merci Elodie Ripoll d'être venue dans le premier numéro de Questions du Soir, le premier de l'année. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence au département d'humanité numérique à l'université de Trèves. Vous avez co-dirigé avec Catherine Galouette l'écriture de Tomber en amour, enquête sur la naissance du sentiment au XVIIIe siècle, un ouvrage qui paraîtra aux éditions Classiques Garnier dès demain. Merci encore.
Merci.